Le SIBCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 20 au 22 septembre 2023, au Grand Palais éphémère à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes en direct, il est 10h13, nous sommes le premier jour de la seconde édition du Salon Immobilier Bas Carbone. Nous sommes le 20 septembre 2023 et je vous conseille vraiment les amis de venir ici au Grand Palais éphémère puisque c'est un lieu particulier, j'allais dire presque symbolique, dans un environnement vraiment singulier. Et je trouve assez original de faire ce type de rencontre, de réunir cette agora de professionnels autour de l'immobilier bas carbone dans un environnement comme celui-ci. Voilà, donc tout est dit, vous avez compris la tonalité, vous avez vu, on a des décors un peu bois, donc c'est très développement durable. On va parler d'immobilier bas carbone, car comme vous le savez, les amis, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, l'immobilier est le deuxième émetteur de carbone après le transport. Et c'est bien de ces sujets dont on va parler, de tous les acteurs de la fabrique de la ville, pour justement tendre vers cette fameuse neutralité carbone, tant attendue aux horizons, on l'espère peut-être de 2050, bien évidemment. On va en parler avec les professionnels qui vont se succéder sur le plateau. J'ai plaisir d'ouvrir cette session avec Christine Grèze. On dit Grèze ?
Absolument.
Comment ça va, Christine ?
Très bien, très heureuse d'être ici au SIBCA.
Eh ben moi, je suis ravi de vous recevoir. Je crois d'ailleurs que c'est une première, avec moi en tout cas. Vous êtes directrice de la RSE et de l'innovation pour Link City.
Absolument.
Tout un programme, Link City. Alors déjà, dans un premier temps, on va contextualiser, c'est très à la mode d'utiliser le terme, on va contextualiser. Link City en quelques mots.
Alors Link City, en quelques mots, c'est la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction qui réalise tout un panel de produits d'immobilier, tant dans le tertiaire que dans le résidentiel, mais qui est également présent sur l'aménagement de nouveaux quartiers. Et nous intervenons sur toute la France. On a aussi des filiales à l'international, mais en tout cas, moi, mon périmètre, c'est la France.
Alors, on va parler justement du premier rôle. On va dire que vous travaillez aujourd'hui étroitement sur ces plusieurs types de problématiques, essentiellement justement celle de la réduction de CO2 avec des modes constructifs nouveaux, avec des nouveaux usages, en développant par exemple des supports logistiques, en travaillant sur de l'économie circulaire, en travaillant sur du réemploi de matériaux, sur du recyclage urbain. Tout à l'heure, dans une demi-heure, je vais faire une conférence sur justement le fait de renoncer ou pas aux défis climatiques avec Bernard Mounier, le président de Bouygues Immobilier. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet. Comment vous participez, comment vous vous inscrivez dans ce schéma justement à des problématiques qui sont finalement à la fois claires dans l'explication, puisque je pense qu'il n'y a pas de débat maintenant sur la transition écologique, la transition environnementale. Mais parfois, on a l'impression qu'il y a des équations contraires, des antagonismes difficiles à résoudre. Et c'est vrai que parfois, on se dit, pourquoi ne... On va plutôt renoncer, quoi, dans une certaine mesure. Eh bien non, vous êtes vraiment ancré sur ces problématiques. Comment vous fonctionnez ?
Alors, on a défini une stratégie environnementale forte, justement pour transformer nos manières de construire, à la fois sur le neuf avec la construction très bas carbone, et la réglementation environnementale 2020 nous challenge, mais on anticipe en fait les seuils suivants de la RE 2020, donc ça c'est la partie neuve. Et tout l'autre aspect important dans cette stratégie de décarbonation de notre activité, c'est aussi de travailler beaucoup plus sur de la réhabilitation. Donc c'est là où ça rejoint cette problématique d'économie circulaire. Et donc on vise à 2030 d'avoir 30% de notre activité en réhabilitation bas carbone, puisque une réhabilitation n'est pas systématiquement bas carbone. Il faut s'assurer de la performance énergétique qu'on va atteindre après la réhabilitation, évidemment, mais aussi de mettre en place des matériaux biosourcés, des matériaux de réemploi. On s'est fixé là aussi des objectifs forts, et notamment sur le réemploi. Nous visons à 2030 d'avoir 100% de nos opérations sur lesquelles on fait du réemploi. Et d'ores et déjà, sur les opérations sur lesquelles on a déposé un PC cette année, on a 35% des opérations qui commencent à faire du réemploi de matériaux. Donc je dirais dans l'économie circulaire s'inscrit complètement dans la stratégie de décarbonation de notre activité.
Ça peut par exemple aussi être des réflexions sur des formulations de béton bas carbone, notamment avec des récupérations de granulats. C'est aussi, est-ce que c'est aussi par exemple lié l'action, puisque j'ai bien noté un chiffre, hein, 30%, on m'avait dit 30%,
de réhabilitation.
De réhabilitation. C'est aussi un nouveau modèle économique.
Absolument, c'est une nouvelle manière
de... 80% de la ville est déjà construite, elle sera déjà présente en 2050. Donc, j'allais dire que c'est plutôt ingénieux que dans le développement de l'entreprise, de se dire qu'effectivement, le grand enjeu à l'avenir, ce sera certainement, peut-être, en tout cas, c'est ce que tout le monde suppose, la réhabilitation des bâtiments existants.
Absolument. Et, donc,
et la réversibilité aussi.
Et la réversibilité, alors, en fait, il y a deux grands axes dans le recyclage urbain. Il y a un premier axe qui est la requalification de friches industrielles sur lesquelles, et bien sûr, si on vise le zéro artificialisation nette aussi à 2050, puisqu'il y a le zéro émission nette de CO2, mais aussi zéro artificialisation nette qui s'impose à notre profession. Et donc, il faut construire sur le déjà-là. Et donc, c'est requalifier des friches industrielles, des friches urbaines, sur lesquelles on ne peut pas toujours complètement rénover l'existant. Donc, on va essayer au maximum de rénover les bâtiments qui existent, mais c'est souvent des bâtiments logistiques, des hangars qui ne sont pas forcément réutilisables pour leur nouvelle destination, où en général, on va construire du logement, du bureau, des commerces. Et donc, là, je pourrais prendre l'exemple, par exemple, de ce qu'on a fait sur le quartier de la Maillerie à Villeneuve-d'Ascq, où en fait, c'était l'ancien site logistique des Trois Suisses. Et donc, la première étape qu'on a faite, c'est de faire une étude sur ce qu'on pouvait conserver dans les bâtiments. On s'est aperçu qu'il y avait grosso modo 30% de la surface totale qu'on pouvait conserver, donc un ancien bâtiment logistique qu'on a transformé en parking silo, en commerce, en bureau. Et le reste, par contre, on a construit du neuf. Donc c'est vrai que le neuf a encore sa part dans dans ce recyclage urbain. Le neuf a encore sa part malgré tout. Et puis le deuxième axe, bien sûr, c'est la réhabilitation de bâtiments existants qui peuvent rester dans leur usage actuel. Donc il y a évidemment beaucoup de rénovations de logements, de bureaux, mais aussi qui peut être transformé dans son usage. Et donc là, on va être beaucoup dans la transformation de bureaux ou d'établissements publics en logements. Vous savez sans doute, il y a 10 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants en France du fait de l'évolution des modes de travail, mais aussi de leur performance énergétique insuffisante. Du coup, il y a aussi un très gros enjeu autour de cette transformation des actifs. Et là, je citerai un exemple de ce qu'on a fait à Lyon sur le collège Truffaut, qui est sur les pentes de la Croix-Rousse. Et donc, c'est un ancien collège du 19e siècle qui a été déclassé, donc a abandonné dans son usage. Et donc, on l'a complètement retransformé en lui donnant de nouveaux usages destinés à la jeunesse, en fait, avec une école graphique, une résidence étudiante, une auberge de jeunesse et un tiers-lieu. Enfin, bon, voilà, tout un tas d'usages nouveaux qui permettent finalement de reconstruire sur le déjà-là, comme je disais tout à l'heure, et de ne pas aller empiéter.
La mixité d'usage comme la mixité fonctionnelle aujourd'hui, c'est une réalité qui s'impose. On a complètement changé le paradigme de la construction. Aujourd'hui, on ne silote plus, on ne cloisonne plus comme on le faisait par ailleurs. Du bureau, du commerce, absolument, du logement. Aujourd'hui, on est sur cette mixité. On comprend, bien évidemment, pourquoi Link City réfléchit sur ce type de modèle, puisque on le voit bien, j'allais dire, en termes de business model, la réhabilitation va devenir la norme. Alors, on a un problème de prix, souvent. Est-ce que vous réfléchissez aussi sur comment adapter, à la fois sur le coût des matériaux, dont on voit bien que le réemploi permet aussi d'optimiser la récupération des matériaux, puisqu'ils sont déjà là, donc en partie, mais aussi la sortie de ces projets. Quand on vous dit, par exemple, quand vous entendez dans la presse que la réhabilitation, ça coûte forcément plus cher, est-ce que vous partagez cet avis? Ou est-ce que vous dites, on démarre, l'industrie est en train de se massifier, entre guillemets, et finalement, à un moment donné, on arrivera sur une vitesse de croisière qui permettra d'avoir des prix adaptés. Parce que souvent, quand on parle de la réversibilité, vous savez, la transformation de bureau au logement, par exemple, on dit, sur l'idée, c'est plutôt pas mal, puisqu'on n'a pas de problème de foncier, puisqu'on est sur un appartement foncier. Et on a un vrai sujet de démographie, hein, vous savez, dans le pays. Hein, on a un vrai problème de logement dans le pays. Est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui peut vraiment s'articuler comme étant, peut-être pas forcément la solution ou la martingale, mais une des solutions concrètes ?
C'est une des solutions, cette transformation d'usage, hein, en réhabilitant des bureaux existants. Par contre, effectivement, le coût est important. C'est pas forcément moins cher que de construire du neuf. Et du coup, il faut aussi cibler les zones où on va pouvoir...
Est-ce que ça coûte plus cher ?
Je ne peux pas vous répondre complètement de manière générale. Ouais, c'est au cas par cas et bâtiment par bâtiment qu'on va regarder le sujet. En tout cas, en moyenne, ça ne coûte pas moins cher. On est à peu près dans les mêmes niveaux de coûts.
D'accord.
Voire ça peut coûter plus cher. Tout dépend du bâtiment, de son état. Et puis de la transformation d'usage aussi qu'on veut réaliser. En tout cas, ça suppose qu'effectivement, on puisse avoir des prix de sortie qui soient suffisamment élevés pour quelque part, l'économie du projet puisse fonctionner. Et puis l'autre aspect, vous avez parlé de réemploi de matériaux. Moi, j'ai la conviction, effectivement, et du coût de ce réemploi. Aujourd'hui, il est clair que, en moyenne, quand on fait du réemploi de matériaux sur une opération, on ne va pas gagner de l'argent grâce à ça. On essaie d'être à iso-coût, à peu près. Mais j'ai la conviction qu'avec la structuration des filières de réemploi qui est en train de s'engager, on va réussir à faire baisser les coûts. Et de ce point de vue-là, nous, on est engagés dans deux initiatives, en fait, hein, qui nous aident sur ce sujet-là. La première, c'est le booster du réemploi, à laquelle on a adhéré depuis fin 2021, fin 2020, pardon. Et ce booster du réemploi, qui rassemble une quarantaine de maîtres d'ouvrage, nous aide à bien identifier les filières de réemploi et la manière de mettre en œuvre de manière optimale ce réemploi pendant toute la phase de conception, puis de construction du projet. Et puis surtout, on a là le lancement en novembre de Cineo, la plateforme de réemploi de Bouygues Bâtiment France, sur laquelle on va s'appuyer pour faciliter le sourcing des gisements, pour établir des contrats cadres avec des acteurs du réemploi, pour nous permettre à la fois de sécuriser les gisements, d'avoir un niveau de prix aussi défini qui nous permette d'avoir une vraie visibilité sur la manière dont économiquement on va pouvoir intégrer ces matériaux de réemploi dans nos opérations. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a 1% des matériaux, des déchets qui sortent des chantiers qui sont réemployés, réemployés,
oui,
réellement. C'est très faible. Donc on a un avenir énorme devant nous. Ça veut dire, grosso modo, on estime qu'il y a 80% de ces déchets qui pourraient être réutilisés.
Est-ce que vous fonctionnez en mode BIM, en Building Information Model ?
Oui, absolument. Oui.
Donc finalement, parce que quelque part, on voit bien que cette méthode, parce que c'est plutôt une méthode le BIM, permet finalement d'optimiser finalement à la fois effectivement la gestion des matériaux, mais aussi ça permet d'optimiser le mètre carré, j'allais dire dans le bon sens du terme. Est-ce que, et ça sera ma dernière question, si je vous demandais là de faire un peu une prospective avec une filière bois qui est en train de se structurer, avec des modes constructifs hors site qui sont en train aussi de se structurer, c'est quoi l'avenir là dans les 3-5 prochaines années ? Selon vous ?
Pour moi, il y a à la fois effectivement de travailler, vous l'avez parlé, de l'industrialisation, hein, finalement, de ces nouvelles techniques. C'est bien évidemment aussi la construction bois. Hein. Nous, on vise d'avoir 50% de nos opérations en construction bois.
Ah, quand même ? Ah oui.
D'ici 2030. Et donc, on a déjà un tiers des PC qu'on a déposés en 2022 en construction bois. Donc voilà, c'est un vrai changement.
C'est vrai que chez Bouygues, vous êtes toujours très, très en avance sur l'innovation. Vous avez ça chevillé au corps. Hein.
On essaie d'anticiper la manière dont notre marché va évoluer. On a aussi une forte conviction qu'on a un rôle à jouer fort dans la décarbonation. Vous l'avez évoqué, le bâtiment, c'est la deuxième... industrie, en fait, maîtrise de CO2. Donc, il y a un très gros effort à faire là-dessus. Et donc, la construction bois, les matériaux biosourcés, le réemploi, la réhabilitation, je crois que c'est ces grands sujets-là, et l'industrialisation aussi, pour réussir à ce que tout ça rentre dans le bilan de nos opérations. Pour moi, c'est ça un peu l'avenir de notre activité.
Eh bien, j'étais ravi de vous recevoir, Christine Grèze. Je rappelle que vous êtes la directrice RSE et innovation chez Nexity. On va vous souhaiter un très très beau salon. Et ici, on va enchaîner directement sur la suite de nos interviews.
Le SIBCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais éphémère à Paris sur Radio Immo et Radio Territoria.